À leur retour, les apôtres racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Il les prit avec lui et se retira à l'écart du côté d'une ville appelée Bethsaïda. Mais les gens l'apprirent et le suivirent. Jésus les accueillit, il leur parlait du royaume de Dieu et il guérissait ceux qui en avaient besoin. Comme le jour commençait à baisser, les 12 s'approchèrent et lui dirent « Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs pour loger et pour trouver de quoi manger, car nous sommes ici dans un endroit désert. » Mais Jésus leur dit « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils répondirent « Nous n'avons pas plus de 5 pains et 2 poissons, à moins d'aller nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. » En effet, il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples, « Faites-les asseoir par groupe de 50. » C'est ce qu'ils firent, et tout le monde s'assit. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et les bénit, puis il les rompit et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. On est toujours dans notre série « Un repas avec Jésus », série dans l'évangile de Luc où on s'arrête sur un repas que Jésus a pris avec les uns ou les autres. Et c'est le suivant dans notre série, et peut-être le plus difficile à avaler. C'est un jeu de mots. Un repas dur à avaler, merci. Il y a juste Cécile qui a suivi en premier rang. Mais pour beaucoup, le texte qu'on vient de lire, ça paraît trop difficile à croire. Vous imaginez la scène ? Vous imaginez la scène ? 5 pains, 2 poissons qui sont multipliés pour 5000 hommes. Et ça, c'est sans compter les femmes et les enfants. On peut monter peut-être jusqu'à 8000, plus de 8000 personnes. Ce serait un peu comme tout à l'heure, quand on va proposer un pique-nique à l'avenue de Breteuil. Allez, on va dire une 50aine de personnes ici. Vous êtes partant, vous êtes libre de venir ou pas, hein, mais vous êtes partant pour venir au pique-nique sur l'avenue de Breteuil. On a un pique-nique, il y a une personne qui a amené son pique-nique. Et non seulement il y aura assez pour 50 personnes, il y aura assez pour 150 fois plus. Vous imaginez ? Et il y aura des restes, 12 paniers de restes. Ça paraît tout simplement impensable, du jamais vu. Et pour certains, c'est tellement difficile à concevoir qu'il faut voir là et dans les évangiles une légende. Une légende. Par exemple, écoutez Ernest Renan, ce qu'il affirmait au sujet de Jésus. Sa légende était ainsi le fruit d'une grande conspiration, toute spontanée et s'élaborait autour de lui, de son vivant. Aucun grand événement de l'histoire ne s'est passé sans donner lieu à un cycle de fables. Jésus n'eût pu, quand il l'eût voulu, couper court à ses créations populaires. Et je pense que ça serait la perspective de pas mal de personnes qui nous entourent. C'est une légende inventée par les disciples, une exagération qui s'est faite au fil du temps, à la limite. Alors, on n'a pas le temps de donner une réponse détaillée à cette objection par rapport à ce texte. Mais c'est un bon cas d'école, un bon cas d'étude. Dans les minutes qui viennent, je vais me baser sur le travail d'un spécialiste de langue et de texte biblique. Il est professeur à l'université de Cambridge, un certain Peter J. Williams, John Williams. Et pour commencer, Williams, dans l'étude qu'il a faite de ce passage, reconnaît qu'on ne peut pas, on ne peut pas démontrer la véracité de cet événement. On ne peut pas prouver l'historicité de cet événement. D'ailleurs, comme la plupart des événements historiques, on ne peut pas le prouver. Mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on s'approche, avec ce qui nous est dit, de quelque chose d'authentique ou est-ce qu'on en est loin ? Est-ce qu'on s'approche de quelque chose d'authentique ou est-ce qu'on en est loin ? Ce qu'il y a d'intéressant avec ce récit, c'est qu'il se trouve mentionné dans les 4 évangiles. Donc on a quatre personnes qui rédigent et qui vont parler de cet événement, mais avec des nuances, des différences. Et quand on les met ensemble, il y a quelque chose d'intéressant à faire ressortir. Prenez par exemple Marc et Jean, ils vont tous les deux faire une allusion sur l'herbe. Marc nous dit que l'herbe était verte, Jean nous dit qu'il y avait beaucoup d'herbe. Et là on se dit, très bien, est-ce que c'est en fait quelque chose pour nous donner l'impression d'un récit authentique, donner l'impression que c'est vrai? Ou est-ce que c'est justement un témoignage? Il écrit ce qu'il voit ou ce qu'il sait. Et ensuite, un autre commentaire qui se fait par Marc sur le fait qu'il y avait beaucoup d'allées et venues. Mais il ne nous dit pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. Jean nous dit que c'était la période de la Pâque. Et si on met les deux événements, ou les deux éléments plutôt ensemble, ça a du sens. Pour la Pâque, il va y avoir des pèlerinages, des gens qui se rendent à Jérusalem. Ça donne du sens. Dans l'évangile de Jean, il nous est dit que Jésus se tourne vers Philippe pour lui demander où il pourrait acheter du pain. Pourquoi est-ce qu'il se tourne vers Philippe? Jean ne nous dit rien. Toujours dans l'évangile de Jean, Philippe répond et par la suite, il y a André qui va dire quelque chose aussi. Pourquoi? Ce n'est pas spécifié. Mais quand on prend notre texte de Luc, on nous dit que cette multiplication, elle a eu lieu à Bethsaïda. Et c'est seulement quand on recoupe Luc avec le début de l'évangile de Jean qu'on commence à y voir plus clair. Philippe, André viennent de Bethsaïda, ils sont originaires de Bethsaïda. Ça a du sens que Jésus pose la question à Philippe et qu'André ajoute quelque chose. Mais si on prend simplement un des évangiles, et si on prend Jean, isolément, c'est simplement un élément ici ou là qu'on nous donne, mais on ne voit pas la nécessité de dire cet élément-là, ou on ne voit pas l'image d'ensemble. Mais quand on les recoupe, ça a du sens. Prenez encore un tout petit détail que Jean mentionne. Les pains étaient faits d'orge. Là encore, isolément, ça n'a pas beaucoup de sens, mais si on le prend avec le fait que c'était au moment de la Pâque, c'est cette période-là qu'on va avoir les récoltes d'orge. Si on en revient à des petits détails comme l'herbe verte, le fait qu'il y avait beaucoup d'herbe, là encore, ça colle avec la période de la Pâque. On vient de sortir des 6 mois les plus pluvieux dans la région. Pris isolément, c'est des éléments qui n'auraient pas beaucoup d'importance et même on ne voit pas vraiment à quoi ça servirait. Mais si on les met ensemble, on trouve un récit qui a de la crédibilité. Une idée courante, quand on pense à une légende qui naît, qui grandit, c'est qu'on a en fait une sorte de phénomène de téléphone arabe, où il y a quelque chose qui a été dit au départ, et après il y a une progression, et on exagère. Et dans le cas de Jésus, on serait progressivement arrivé à quelque chose de miraculeux, un faiseur de miracles. Et ça paraît pas... Voilà, c'est de la légende. Maintenant, est-ce que c'est légitime de penser que dans ce système de téléphone arabe, on a des détails qui sont très bien conservés tout au long du processus? Par contre, les événements importants, alors là, ça part dans tous les sens. Est-ce que c'est légitime de penser que les détails, on va tous bien les conserver, mais par contre, les éléments importants, ça va partir dans tous les sens? En fait, quand on est dans le souvenir, et d'ailleurs Cécile a fait appel au souvenir, c'est les événements importants dont on se souvient, généralement. Les détails, on a tendance à les oublier. Et ici, s'ils sont crédibles sur des éléments de détail, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas leur faire davantage confiance sur des éléments plus importants? On a l'habitude de faire un portrait soit des disciples qui sont stupides, ils sont bêtes, ils croient n'importe quoi et ils veulent nous faire croire n'importe quoi. Ou alors ce sont des gens très rusés, très forts parce qu'ils arrivent à nous faire croire quelque chose qui est monté de toutes pièces, mais ils le font bien. Ils ont fait croire à des gens pour des siècles et des siècles que c'était vrai. Ce serait soit l'un, soit l'autre. Et si c'était une voie médiane? Et si c'était simplement ni des gens qui sont particulièrement stupides, ni des gens qui sont particulièrement intelligents, mais tout simplement des gens ordinaires qui témoignent de ce qu'ils ont vu? Et si c'était ça? On va avoir au-delà de la question de l'authenticité un message qui va ressortir de ce texte et qui, j'espère, sera utile, quelle que soit votre positionnement par rapport à ce texte, quel que soit où vous en êtes dans votre foi. On va parler de deux choses essentiellement, la participation des disciples à l'œuvre de Jésus. Ce sera les deux points, la participation des disciples, l'œuvre de Jésus. Un double aspect qui se retrouve dans le texte déjà, mais qui se retrouve aussi dans le contexte, si on regarde là où ce texte se trouve. Regardez comment le texte commence. À leur retour, et vous pouvez suivre si vous voulez par la suite dans la Bible, on va faire référence à plusieurs fois, à plusieurs reprises. À leur retour, les apôtres racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. À leur retour de quoi ? À leur retour de quoi ? Mais au début du chapitre, on voit que Jésus les envoie pour proclamer le royaume de Dieu et guérir les malades. Et qu'est-ce que lui va faire ? Au verset 11, il nous est dit que lui-même, quand il voit la foule arriver, il leur parlait du royaume de Dieu et il guérissait ceux qui en avaient besoin. Un parallèle qui se voit entre Jésus, ce qu'il fait lui, et ce qu'il envoie faire les disciples. Il est dans le contexte, il est aussi dans notre texte, et on commence avec la participation des disciples. On voit qu'ils ont vécu, en amont de notre récit, un temps fort. Ils sont allés, justement, deux par deux, dans toutes sortes de régions, pour proclamer ce royaume de Dieu. C'est donc Jésus qui est le roi. Et ils doivent faire l'expérience de sa providence, la providence de Dieu. Un peu comme l'émission Paris-Pékin, où il faut, avec trois fois rien, s'en sortir. Ils ont dû faire l'expérience de l'hospitalité qui leur est réservée chez les gens qui les accueillent. Et on peut penser qu'il y a une expérience forte là qui est vécue par les disciples, mais aussi quelque chose qui a dû être fatigant. C'est fatigant constamment de devoir se déplacer, s'adapter à de nouvelles personnes, s'adapter à des demandes, s'adapter à des gens qui, en fait, croient ou ne croient pas. Et ce n'est pas pour rien que Jésus décide de les prendre de côté, de les prendre à l'écart pour qu'ils puissent se reposer. Et il décide de les amener, on le sait par les autres évangiles, par barque jusqu'à Bethsaïda, au nord-est du lac de Galilée. Mais la foule, elle est toujours intéressée. Elle les suit par la marche. Et ils vont les rejoindre dans ce côté à côté de Bethsaïda. Et la réaction de Jésus à leur arrivée, elle est donnée au verset 11, on l'a lu tout à l'heure. Alors là, vous imaginez pour vous une grosse journée de travail. Vous avez eu une grosse journée de travail. Vous rentrez à la maison, vous n'avez qu'une envie, c'est de vous poser devant la télévision, de prendre un bon plat, manger, de vous reposer. Et c'est là que votre patron vous appelle. Il dit, au fait, il y a juste encore un dossier qu'il faudrait finir avant la tombée de la nuit. Et là, vous dites, oh non. Et pourtant, vous devez le faire parce que c'est votre patron. Quelle est la réaction ici des disciples quand ils voient la fin de la journée ? Eh bien, renvoie la foule. Ils viennent dire à Jésus, renvoie la foule afin qu'ils aillent dans les villages et dans la campagne des environs pour se loger et pour trouver de quoi manger, car nous sommes ici dans un endroit désert. Et on les comprend, ça paraît même sage de leur part de prévenir ce qui va se passer. Mais la réponse de Jésus, elle a dû les choquer. Donnez-leur vous-même à manger. Donnez-leur vous-même à manger. Vous imaginez le choc ? Et là, on retrouve dans cette requête de Jésus, cette double facette, quelque chose que lui va faire. Il sait très bien ce qu'il va faire. Le fait qu'il dise ce qu'il faut faire, qu'il pose les questions. Jean nous dit même que Jésus savait ce qu'il allait faire, mais il voulait les mettre à l'épreuve. Autrement dit, il y a bel et bien Jésus qui va être à l'œuvre, mais en même temps, il veut les engager. Et une des choses qui ressort très clairement, c'est que dès le départ, ils doivent être conscients qu'ils ne sont pas en mesure de le faire par eux-mêmes. Dès le départ, ils doivent réaliser qu'ils doivent le faire, mais qu'ils ne sont pas en mesure de le faire par eux-mêmes. Et ça, c'est une bonne représentation du service chrétien. Servir Jésus, servir son Église, c'est partir avec ce même constat, précisément savoir qu'il y a un besoin, que Jésus nous appelle à lui obéir, à le servir, et en même temps, se sentir démuni, se sentir pas à la hauteur, pas en mesure de pouvoir le faire. Dimanche dernier, j'ai mentionné William Wilberforce et sa lutte pour l'abolition de l'esclavage en Angleterre. Et il y a deux questionnements qu'il a eu en amont de cet engagement, mais aussi pendant sa lutte. Le premier questionnement, c'était « Est-ce que je peux encore continuer en politique ?» Une fois qu'il se convertit, il se demande s'il pouvait garder sa place en politique. Est-ce que ça avait du sens en tant que chrétien d'être en même temps politicien ? Et le deuxième questionnement, eh ben, c'est précisément le sentiment de ne pas être à la hauteur. Se savoir pas à la hauteur. Pourtant, une œuvre dans laquelle il a abouti, après des années, c'est toute une vie qu'il va y consacrer, il va aboutir. Et quand il a ces questionnements à l'esprit, c'est avec ces questionnements à l'esprit qu'il vient voir John Newton le 28 octobre 1787. Et après cet échange avec John Newton, voici ce qu'il écrit dans son journal. « Le Dieu Tout-Puissant a placé devant moi deux grands objectifs, la suppression du trafic d'esclaves et la réforme morale. » À la fois le sentiment de ne pas être à la hauteur, le sentiment de ne pas être en mesure de le faire, et en même temps la conviction que le Dieu Tout-Puissant veut être à l'œuvre. Et il m'a demandé de le servir. Et ça devrait être le double aspect de n'importe quel service chrétien. Une conviction, un besoin. Dieu qui met à cœur, au cœur d'une personne de le servir, et en même temps le sentiment de ne pas être à la hauteur, de ne pas pouvoir le faire. Et on pourrait faire une longue liste de croyants qui se sont sentis investis d'une lourde tâche en se sachant très limités. Prenez par exemple le dicton du médecin Ambroise Paré, considéré comme le père de la chirurgie moderne. « Je le pensais, Dieu le guérit. » Henri Dunant, le fondateur de la Croix-Rouge. Martin Luther King, dans sa lutte pour l'égalité des droits aux États-Unis. Et on pourrait faire une longue liste. J'ai vu des sites avec des listes et des listes de personnes qui, parce qu'ils avaient foi en Jésus, ont été prêts à servir, à initier des mouvements, des initiatives. Je me souviens en particulier, en pensant à ce texte, avoir entendu le témoignage de quelqu'un qui s'appelle Alain Oudercet, qui est dessinateur BD. Alain Oudercet a grandi dans la région où j'ai grandi, en Suisse romande. Il est devenu croyant à travers des petits cahiers qui s'appelaient Tournesol. Et il a été interpellé à un moment donné dans son cheminement à se dire « Qu'est-ce que moi je pourrais faire pour Jésus ?» Et une chose dans laquelle il s'est lancé, c'est précisément de faire des BD pour interpeller ses lecteurs sur les questions de l'existence, du sens de la vie, de Dieu, la foi. Alors vous l'avez peut-être vu depuis un moment. Mais c'est le genre de dessin qu'il a utilisé et qu'il utilise encore pour interpeller. Et quand il témoignait, parlait de l'origine de sa vocation, c'est précisément ce texte-là, ce récit-là qu'il allait, en se disant qu'il se voyait bien dans la peau de ce petit garçon qui avait quasiment rien à apporter. « J'ai rien à apporter. Tout ce que je sais faire, c'est gribouiller, dessiner. » Et maintenant, c'est plus de 100 000 exemplaires de BD traduits en 6 langues, des vidéos qui ont été vues des millions de fois, qui se propagent. Service chrétien, c'est se savoir sollicité par Jésus en étant précisément conscient qu'on n'est pas à la hauteur de la tâche. Et ce soir, il est possible que vous soyez venu, ou vous soyez là, en ayant le sentiment « Mais qu'est-ce que moi je peux apporter à Jésus ?» Pas grand-chose. Peut-être. Sentiment peut-être de pouvoir juste apporter un peu d'écoute. Je peux simplement écouter. Ou alors servir de manière pratique, peut-être en faisant le ménage pendant les vacances. Moi, c'est simplement en accueillant quelqu'un chez moi. Moi, c'est en proposant, et on va en parler à la rentrée, de faire une étude biblique en un à un avec quelqu'un. Ça ne sera pas grand-chose. Eh bien, on est dans le bon cas de figure de ce texte ici. C'est précisément avec peu de choses que Jésus va multiplier. Et on devrait être conscient dans le service chrétien qu'il y a précisément ce contraste entre le peu de choses qu'on a apportées et ce que Jésus veut multiplier et utiliser. Maintenant, il y en a peut-être qui se disent, mais est-ce qu'au fond, il n'y a pas en nous un désir de gloire caché ? En fait, on a au fond de nous un désir de marquer l'histoire. Et c'est vrai que malheureusement, nos motivations dans le service, elles peuvent être mélangées. On peut avoir essentiellement le désir de servir Jésus, avoir le désir qu'il soit glorifié, et en même temps, au fond de nous, le désir entaché d'orgueil, de vouloir se faire un nom. Et c'est là que c'est utile de revenir à ce texte et de voir ce qui est au cœur de ce passage. Ce qui est au cœur de ce passage, c'est l'œuvre de Jésus. L'œuvre de Jésus. Une fois les disciples sollicités, la problématique posée, Jésus entre en action pour nourrir toute cette foule. Alors remarquez qu'il demande qu'il y ait une organisation qui soit faite. Ils se mettent par groupe de 50, tout le monde s'assied. Et Jésus prend ce qui lui est donné, ces 5 pains, ces 2 poissons, lève les yeux vers le ciel et les bénit. Par ce simple geste, un geste fort, il dit quelque chose de fort aussi. Cette foule qui sera nourrie, c'est en comptant sur Dieu, c'est par la providence de Dieu qu'elle sera nourrie. Il rompt les pains et c'est là que le miracle commence. Remarquez que Jésus ne fait pas une pile de pain et une pile de poissons, et au moment où les gens se disent ouais, il y aura assez pour tout le monde qu'on distribue. Non, le miracle se produit alors que la distribution commence, alors qu'il commence à rompre le pain. C'est là que la multiplication se fait. Autrement dit, l'œuvre même qui s'accomplit pendant la distribution, c'est l'œuvre de Jésus. La provision est grande, il y a 12 paniers de restes, l'abondance est telle qu'il y a des restes. Et là, on doit se poser la question, mais pourquoi est-ce que Luc relate ce récit ici? Pourquoi est-ce qu'il choisit de nous dire ça? Simplement parce qu'il veut nous en mettre plein la vue? Disant, voilà, il y aurait d'autres choses qu'il aurait pu choisir, Jésus, pour en mettre plein la vue. Et c'est intéressant de voir le contexte de ce passage. Remarquez, si vous avez vos Bibles ouvertes, je vous invite à regarder le texte. Entre la mission des disciples et notre texte, il y a quelques lignes sur qui? Il y a quelques lignes sur Hérode. Qu'est-ce qu'il fait là, Hérode? Pourquoi est-ce qu'on parle d'Hérode? Hérode, le tétrarque ou le roi nommé par les Romains, qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi est-ce qu'on parle de lui? On parle des disciples, de ce qu'ils vont faire, de ce qu'ils ont fait. On parle encore de ce qu'ils vont faire par la suite aux côtés de Jésus. Et là, on a un Hérode qui est intrigué, qui s'intéresse à Jésus parce qu'il se demande pourquoi on parle autant de lui. Il s'inquiète de quoi? Il s'inquiète de ce que ce soit peut-être Jean décapité qui est ressuscité. C'est lui qui a fait décapiter Jean. Hérode a demandé la décapitation de Jésus, de Jean, pardon. Et il se demande, inquiet, si c'était Jean ressuscité. Et c'est comme si Luc nous plaçait devant un contraste entre 2 rois, 2 types de rois. Un vrai roi et un faux roi. Le faux roi, c'est Hérode, le tétrarque. Le vrai roi, c'est Jésus. C'est lui, c'est de son royaume dont il est question. C'est lui le véritable Messie. Hérode, on le sent intrigué, inquiet, parce qu'il y a cette renommée, parce qu'il a fait décapiter Jean, parce qu'il se demande s'il y a un retour de manivelle. Et on se souvient que s'il a fait décapiter Jean, c'est simplement pour satisfaire la demande de sa fille et de sa femme, qui demande la tête de Jean lors d'une soirée. Et il leur a promis, jusqu'à la moitié du royaume, eh ben, pour ne pas perdre la face, il fait décapiter Jean. Et le fait amener sur sa tête sur un plateau. Hérode, c'est ce genre de roi-là, prêt à faire décapiter quelqu'un simplement pour ne pas perdre la face. Et ici, on le retrouve inquiet, intrigué, inquiet pour sa peau, inquiet pour sa place, inquiet pour son règne. Et pour Jésus, c'est tout autre chose. Dans le récit, on le voit, par inquiet pour lui-même, c'est par compassion qu'il va nourrir toute cette foule. Il nous est même dit dans Jean, le récit parallèle, qu'après la multiplication des pains, il y a des personnes qui viennent vers Jésus pour le faire roi, pour qu'il devienne roi. Mais Jésus se retire, parce que ce n'est pas de ce genre de roi qu'il veut. Enfin, ce n'est pas ce genre de roi-là. Il n'est pas le messie politique qu'on veut faire de lui. Ce n'est pas pour son image, ce n'est pas pour son aura, par amour propre, c'est plutôt pour servir les autres, qu'il multiplie ses pains et ses poissons. On l'a vu dans le contexte de notre passage. Et si vous voulez bien, j'aimerais juste faire le plan large. On voit le plan plus rapprocher le contexte de notre passage, mais prenez quelques instants le plan large. Ce n'est pas la première fois qu'on a une multiplication de nourriture dans un endroit désert. Dans l'histoire du peuple, on l'a vu à quel moment ? Dans le désert, temps de l'Exode. C'est ça. Entre l'Égypte et le pays promis, tout un peuple se retrouve dans le désert, un lieu par excellence où on n'a rien. Et c'est là que Dieu va pourvoir par la manne, par l'écaille, par l'eau. Des parallèles qu'on voit entre Nombre et 11 et notre passage. On pourrait dire pareil avec Élisée, qui multiplie la nourriture, 2 Rois 4. Et prenez un peu plus loin, Ésaïe 40. Ésaïe qui commence comment ? Ésaïe 40 qui commence comment ? Par la voix de quelqu'un qui crie dans le désert. Des paroles que Jean va reprendre pour lui-même. Jean-Baptiste qui prépare la venue de qui ? De Dieu lui-même. Parce que Dieu lui-même va venir à la rencontre de son peuple. Parce que Dieu lui-même va faire preuve de compassion, comme un berger qui a compassion d'un troupeau. Voyez le plan large ? Jésus incarne la compassion de Dieu. Il est la providence de Dieu lui-même. Il est le pain de vie. Hérode, il peut se préoccuper de son aura, de sa peau. Il peut se préoccuper de ce qu'on pense de lui, de son règne. Jésus est là pour se préoccuper d'un peuple qui a faim. Mais jusqu'à quel point est-ce qu'on peut faire confiance à Jésus ? Jusqu'à quel point est-ce que ce n'est pas pour le prestige qu'il fait tout ça ? Ben ça se voit dans les gestes. Qu'est-ce qu'il fait ? Il bénit ce repas qui lui est donné et ensuite il rompt le pain. Si vous suivez l'évangile de Luc, si vous allez plus loin, on va retrouver ces deux mêmes expressions. Il bénit et il rompt le pain. À deux moments, on va voir Jésus refaire ce geste, bénir ou rendre grâce et rompre ce pain. À quel moment ? Lorsqu'il célèbre la Pâque, le soir avant d'être crucifié, il va remercier Dieu pour ce pain et ensuite le rompre. Et ce repas qu'il prend avec eux, c'est le symbole de son propre corps qui va être rompu à la croix. C'est le pain, comme un pain qu'on mange, comme une nourriture qu'on mange et qui nous évite la mort physique, il est ce pain qui nous évite une mort spirituelle, mais aussi physique. On retrouve cette même expression après avoir prononcé la prière de bénédiction. Il le rompit, il l'ordonna dans Luc 24, 30, après la résurrection. Les deux disciples qui sont en route vers Emmaüs, c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'ils le reconnaissent. À ce moment-là, quand il remercie, il bénit le pain et il le rompt, c'est là qu'ils le reconnaissent. Et les deux fois, c'est un renvoi évident à ses propres souffrances, à sa propre mort, à notre place. Il est le pain qui donne la vie, le pain qui renonce à la sienne pour nous donner la vie. Une vie qu'il va soutenir éternellement par la résurrection. Et ça doit nous dire quelque chose sur celui qui est à l'œuvre. Ça doit nous dire aussi quelque chose sur notre manière de servir. Est-ce qu'on pourrait, si on comprend bien l'œuvre de Jésus, vouloir que notre œuvre à son service, elle soit pour notre aura, pour qu'on se fasse un nom, qu'on soit vu comme des gens bien ? Lui, il s'est sacrifié à notre place. Et notre service pour lui, il devrait avoir les mêmes traits. Que ce soit le fait de donner du temps, peut-être dans les prochaines semaines, donner du temps pour l'Église, donner du temps pour la communauté, donner du temps pour un frère ou une sœur qui passe par des moments difficiles. Que ce soit le sacrifice dans le fait de donner à l'Église. C'est de l'argent que vous pourriez utiliser autrement. Vous pourriez l'utiliser autrement. Bien des façons, vous avez mille idées de comment vous pourriez l'utiliser. Mais donner à l'Église, ça représente un coût, ça représente un sacrifice pour participer à ses projets, pour être au service des autres. Ça pourrait être aussi dans la consécration de notre temps, prendre le temps de lire sa parole et de prier. Vous pourriez vous consacrer à vos études entièrement, vous pourriez vous consacrer à votre travail pour monter dans les échelons et ne pas prendre ce temps. Ça va demander un coût, ça va demander un sacrifice, mais à chaque fois, ce sera le reflet du sacrifice que lui-même a consenti pour nous. Le service chrétien, il a une double facette. Il y a une participation des disciples qui précisément doivent réaliser qu'ils ne sont pas à la hauteur de la tâche. Et il y a ensuite une participation à une œuvre qui est celle de Jésus, qui lui se donne, qui s'est donné pour nous et qui veut que cette œuvre se reflète en nous. Je vous invite à la prière. Notre Dieu, notre Père, on veut reconnaître qu'on a le sentiment souvent de ne pas avoir grand-chose à apporter. Le sentiment aussi de, face à la tâche, face aux besoins qui sont devant nous, de ne pas savoir où commencer, de ne pas savoir comment faire et de ne pas être à la hauteur tout simplement. Et nous te remercions pour ce passage qui nous rappelle que Jésus choisit précisément d'agir là où nous nous sentons limités, de sorte que toute la gloire lui revienne. Une œuvre qui témoigne d'un sacrifice bien plus grand, bien plus beau qu'il a consenti pour nous. Que tu nous accordes, notre Père, dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, de vivre la joie du service, un service qui se multiplie et qui agit pour le bien des autres. Et nous te le prions au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen.